Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 31 mai.
Tir de projectile, Pyongyang prévoit un nouveau lancement tout en reconnaissant son échec. Le patron de l'ONU fustige le dernier tir de la Corée du Nord. Séoul et Paris signent un accord de coopération militaire spatiale. Et enfin, Covid-19, le siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité tient sa dernière réunion.
La Corée du Nord a déclaré vers 9h du matin avoir tiré plus tôt un satellite espion, mais que ce dernier est tombé en mer Jaune en raison d'un accident. Tout en reconnaissant ainsi son échec, elle a annoncé qu'un nouveau lancement sera bientôt effectué. En détail, selon la KCNA, le tir du satellite de reconnaissance Maligan 1 a été effectué à 6h27 à l'aide de la roquette Cholima 1 depuis le site de Sohae dans la province nord-coréenne de Pyongan du Nord. Toujours d'après l'agence de presse officielle du Royaume Ermite, en raison d'une panne au deuxième étage de Cholima 1, le vol a mal tourné. Par conséquent, les défauts seront tout d'abord étudiés minutieusement. Des tests partiaux seront ensuite menés pour qu'un nouveau tir se déroule au plus vite. À Séoul, dès que le tir du projectile en question a été détecté, l'armée a aussitôt augmenté sa vigilance. Le bureau présidentiel de Yongsan a convoqué le NSC et en étroite coopération avec Washington, les analyses sur le trajet ainsi que la nature exacte de cet engin, soupçonné d'être un missile balistique, se poursuivent. Notons que ce n'est pas la première fois que Pyongyang admet immédiatement son erreur. En avril 2012, lorsque le lancement du Kwangmyongson 3 avait capoté, il avait reconnu aussitôt les faits.
Si le projectile est tombé, où sont les débris ? En mer Jaune, l'armée sud-coréenne a repêché ce matin une partie de la soi-disant fusée spatiale tirée un peu plus tôt par la Corée du Nord. L'état-major interarmée sud-coréen, le JCS, a expliqué que ces fragments avaient été repérés à 8h05 dans la mer qui sépare les deux Corées et la Chine à environ 70 mètres de profondeur. Il reste pourtant à effectuer des analyses supplémentaires pour déterminer à quelle partie ils appartiennent. Selon plusieurs sources gouvernementales, la marine sud-coréenne avait déjà dépêché des bateaux de sauvetage sur les lieux dès que Pyongyang avait prévu un tir, avant d'ajouter que plusieurs vaisseaux chinois se trouvaient aussi aux alentours de l'endroit où les restes du projectile sont tombés. Le JCS avait annoncé plus tôt que le régime de Kim Jong-un avait lancé vers 6h29 du matin un engin depuis Tongchangli en direction du sud. Le projectile, que le pays communiste prétend être un satellite de reconnaissance, s'est écrasé à environ 200 km à l'ouest de l'île d'Ochang après un vol anormal.
Les États-Unis n'ont pas tardé à réagir au tir de projectile de la Corée du Nord de ce matin. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a publié une déclaration qualifiant ce lancement de violation éhontée qui va à l'encontre de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'après Adam Hodge, cet acte ne fait qu'accroître les tensions dans la région, avant d'ajouter que le président Biden et les membres du NSC surveillaient de près la situation et son étroite collaboration avec ses alliés et partenaires. Tout en appelant la communauté internationale à dénoncer ensemble ce tir, Washington a tout de même laissé la porte du dialogue avec Pyongyang ouverte.
Et pour refermer ce chapitre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lui aussi fermement condamné le tir de projectile effectué ce matin par la Corée du Nord. Selon son porte-parole, Stéphane Dujarric, le patron de l'ONU a affirmé que tout lancement utilisant la technologie des missiles balistiques enfreignait les résolutions du Conseil de sécurité. Il a ainsi appelé Pyongyang à suspendre immédiatement de tels actes et à retourner à la table des négociations pour la réalisation de la paix durable et la dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
La Corée du Sud et la France ont signé un mémorandum d'entente pour la coopération spatiale militaire bilatérale. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministère sud-coréen de la Défense. Lors de la cérémonie de signature qui a lieu hier à Séoul, les deux pays ont respectivement été représentés par Choi Byung-wook, le directeur général du Bureau de la politique de défense du ministère sud-coréen de la Défense, et Philippe Adam, le commandant de l'espace du ministère français des Armées. À cette occasion, la Choi a affirmé que ce protocole d'accord a jeter les bases d'un cadre institutionnel pour un véritable partenariat entre Séoul et Paris en matière de défense spatiale. Il a proposé de développer activement la coopération bilatérale à travers notamment la participation de la Corée du Sud à des exercices spatiaux internationaux conduits par la France et la mise en place de recherches conjointes dans le domaine de la politique spatiale. De son côté, son interlocuteur a manifesté son intérêt pour les capacités du pays du matin clair en matière de défense spatiale avant de promettre d'œuvrer pour un partenariat bilatéral gagnant-gagnant.
La délégation sud-coréenne qui a visité la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon pendant 6 jours a rendu public ce matin le résultat de sa mission. Elle a examiné notamment les installations clés liées au projet de rejet des eaux polluées de celle-ci dans l'océan, à savoir le système avancé de traitement des liquides ALPS. Pour évaluer ses performances dans l'élimination des radionucléides, l'équipe d'experts a obtenu des données brutes telles que les analyses de la teneur des eaux traitées de ces 4 dernières années. Elle s'est également renseignée sur les principaux cas de défaillance et les mesures prises afin de vérifier si le système est capable d'opérer de façon stable sur le long terme. Les spécialistes sud-coréens passeront au crible les capacités globales de l'ALPS en s'appuyant sur les données collectées ainsi que l'étude des échantillons de l'Agence internationale de l'énergie atomique. À propos du tritium qui n'est pas filtré par l'ALPS, la délégation a contrôlé les équipements de la dilution et du déversement des eaux contaminées. Le Japon lui a partagé son plan de prélèvement des échantillons avant et pendant le rejet dans la mer. La mission a également porté sur les spécifications et l'état d'installation des pompes de circulation entre les réservoirs de stockage des eaux polluées. La potentielle suspension d'urgence du déversement des eaux en cas de situation anormale a également été vérifiée. Le groupe d'experts a jugé que son déplacement avait apporté un progrès significatif dans l'examen technologique. Son directeur Yu Kuhee a déclaré que les principaux équipements avaient été mis en place sur le site conformément à leur conception. La Corée du Sud prévoit de recueillir des informations supplémentaires et d'effectuer des analyses avancées pour parvenir à une évaluation plus précise.
Le siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité a tenu ce matin son dernier rassemblement sur le Covid-19 au complexe gouvernemental de Séoul. Le vice-ministre de la Santé a annoncé la fin des opérations de l'institution démarrée le 23 février 2020 afin de répondre au coronavirus, en déclarant qu'il s'agissait de sa 691e et ultime réunion. Park Min-soo a remercié les citoyens, les petits commerçants et industriels, ainsi que les entrepreneurs individuels de leur coopération active pour lutter contre la pandémie. Il n'a pas oublié d'envoyer un mot de remerciement au personnel médical, aux fonctionnaires, aux soldats et aux enseignants. Sans oublier de rendre hommage aux 34 784 personnes qui ont perdu la vie à cause du coronavirus. Le haut officiel a fait part ensuite de l'abaissement du niveau d'alerte sur l'épidémie à vigilance dès demain. Il sera alors seulement recommandé aux personnes infectées de s'isoler chez soi pendant 5 jours, alors qu'elles étaient obligées de le faire pendant 1 semaine. Il a expliqué que certaines mesures d'aide financière seraient maintenues temporairement pour ceux qui se confinent volontairement. Il sera aussi conseillé aux élèves contaminés de rester à la maison pendant 5 jours et leur absence sera considérée comme justifiée. Les centres de dépistage désignés opéreront toujours, contrairement à ceux temporaires. La recommandation de subir un test PCR pour les voyageurs venus de l'étranger dans un délai de 3 jours après leur arrivée sera aussi levée. Par ailleurs, le bilan sur la pandémie sera désormais publié de manière hebdomadaire et non plus quotidiennement. Le vice-ministre a souligné avant de finir que le Covid-19 demeurait toujours une menace et qu'on devrait vivre avec celui-ci pendant un certain temps, avant d'appeler à respecter les consignes sanitaires pour minimiser les risques dus au coronavirus et protéger les individus à haut risque.
Et pour terminer, la part des habitations détenues par les étrangers en Corée du Sud s'est élevée fin 2022 à environ 0,4%. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministère de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et des Transports. Le gouvernement s'était fixé l'objectif de limiter l'achat de logements à caractère spéculatif par les étrangers. Et voici donc les premiers chiffres publiés. Par nationalité, 53,8% des acquéreurs de logements au pays du matin clair étaient des Chinois. Ils sont suivis par les Américains avec 23,9%. Les biens immobiliers achetés par ces derniers se trouvent principalement dans la région métropolitaine. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oh Hyang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne journée sur nos ondes.